Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour à toutes et à tous. Comment va le français dans le monde? Qu'en est-il de la francophonie en ce début 21e siècle? Cette francophonie a-t-elle un avenir face à ce qui est devenu et convenu d'appeler dans bien des cas l'unilatéralisme anglo-saxon? Doit-elle innover? Autant de questions, de sujets de réflexion que je vous propose d'aborder dans l'émission Éclairage, la première radio académique francophone aujourd'hui avec nos deux invités. Jacques Barra, professeur Barra, bonjour.
Bonjour monsieur.
Universitaire, diplomate, vous enseignez la géopolitique de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas à Paris. Votre carrière vous a dirigé notamment vers les différentes ambassades. Jusqu'en 2001, vous avez dirigé l'Institut français de Bucarest. Et puis je signale l'ouvrage, important ouvrage que vous avez coécrit, co-signé avec Claudia Moese, Géopolitique de la francophonie, un nouveau souffle à la documentation française. À vos côtés, pour illustrer cette problématique de la francophonie, le français dans le monde, j'ai invité un acteur de terrain, acteur et technicien qui connaît bien cette présence française à travers la planète puisqu'il dirige les relations internationales des alliances françaises. Alain Marquer, bonjour.
Bonjour.
Alors messieurs, avant de commencer, j'aimerais bien avoir une définition en fait de la francophonie aujourd'hui. Professeur Barra, c'est beaucoup plus qu'une simple communauté de langues, cette francophonie. L'enjeu est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste.
Mais oui, si vous voulez, par francophonie avec un petit F, on entend l'ensemble des gens qui parlent français, comme aurait dit Élisée Reclus, l'inventeur du mot francophonie, avec son frère Onésime. Officiellement, c'est Onésime, en fait, ce sont les frères géographes, tous les deux, qui ont inventé ce terme. 19e siècle, fin du 19e siècle. Mais grâce à Maurice Druon, nous avons une définition un peu plus jolie, qui est l'ensemble de ceux qui ont le français en partage. Alors ça, c'est la francophonie avec un petit F. Et puis la francophonie avec un grand F, ce sont les organismes qui, depuis quelques années, ont décidé de structurer cet ensemble francophone parce que le désir de structuration de cet ensemble était venu de demandes exprimées hors de France. Alors Sihanouk pour le Cambodge, Bourguiba pour la Tunisie, Léopold Sédar Senghor pour l'Afrique noire, le Sénégal en particulier.
Lui-même bref, parlait de francité d'ailleurs.
Oui, hein, et dans Austin Noir, il dit « Seigneur, parmi les nations blanches, mets la France à la droite du Père. »
Combien de personnes aujourd'hui?
Alors, quelques chiffres. La francophonie avec un petit F, l'ensemble des gens qui parlent français, c'est au minimum 130 millions de gens qui parlent parfaitement bien notre langue, et je dirais au maximum 400 millions de gens qui la comprennent et la pratiquent de manière plus ou moins valable, tout dépend de ce qu'on appelle valable. Je préfère dire francophone réel, francophone occasionnel.
Vous préférez la francophonie avec un petit ou un grand F?
Je n'ai pas à préférer, étant un ancien chef de mission culturelle dans le pays le plus francophone d'Europe après la France, à savoir la Roumanie, et bien avant la Belgique et la Suisse, par le nombre de francophones, je dirais que la francophonie avec un grand F m'est connue, mais que je considère que la francophonie avec un petit F est, quoi qu'on dise, un peu en danger à la surface du globe. D'autant que c'est aujourd'hui à peu près 2% de la population du monde. Le français n'arrive qu'au 10e rang des langues parlées dans le monde, loin derrière l'hindi, le bengali, le portugais, le japonais, le russe, l'espagnol, l'anglais, le chinois, etc. Mais c'est la deuxième langue enseignée dans le monde après l'anglais, et c'est tout de même la langue officielle de 30 pays, dont une majorité de pays d'Afrique. Alors voilà pour vous montrer un petit peu cette géopolitique de la francophonie. Mais il y a à l'intérieur, si vous me permettez de conserver encore deux secondes la parole, il y a à l'intérieur de ces pays une gigantesque diversité géographique. La francophonie existe sur tous les continents, sauf bien sûr l'Océanie. Grande diversité politique, tous les régimes, depuis les royautés les plus absolues jusqu'à des pays qui frisent la dictature jusqu'aux démocraties les plus modernes. Très grande diversité culturelle. je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que cela veut dire, mais aussi trois types de pays, ceux qui ont le français comme langue maternelle, l'Hexagone, une partie de la Belgique, la Suisse, le Québec, ceux qui parlent français parce qu'ils ont été colonisés par la France, et Élisée Reclus, comme tous les bons géographes, pris sur les barricades d'ailleurs en 1870, était comme son frère éminemment colonialiste, et puis... ceux qui ont volontairement choisi d'adhérer à la francophonie avec un grand F, comme par exemple la Roumanie, la Bulgarie, et récemment de nouveaux observateurs et entrants, mais qui ont des liens, je dirais, extrêmement lâches avec la francophonie, si j'en crois l'adhésion de l'Autriche, par exemple.
Alain Marker, quelle est votre définition de la francophonie ? Est-ce que vous partagez cette définition du professeur Jacques Barat ?
Oui, totalement. Moi, je dirais qu'il y a une histoire de la francophonie. Elle ne peut bien se comprendre qu'à travers les évolution géopolitique mondiale à travers les mutations économiques et culturelles. Je dirais que la francophonie, et je parle sous votre contrôle, monsieur le professeur, des origines du début du XXe siècle appartient désormais à l'histoire, on y mettrait un grand H. Mais aujourd'hui, nous sommes clairement dans une phase radicalement différente et décisive pour la langue française, si on parle de francophonie avec un petit F ou un grand F. Et je ne pense pas qu'on peut séparer le mot francophonie du mot mondialisation, du mot diversité culturelle. Vous le disiez, la francophonie se définit comme un espace de liberté, de culture, de communication, de solidarité, et qui permet, je crois que vous l'avez bien souligné, la cohabitation de la langue française avec la pluralité des autres langues nationales ou régionales. Donc, pour moi, je dirais la francophonie, et en parler, c'est montrer que celle-ci a une marge suffisante pour se faire promoteur de la diversité culturelle et pour pouvoir agir dans une mondialisation qui est quand même le concept aujourd'hui, auquel il faut donner un sens, et toute la définition.
Alors, vous dirigez, Alain Marker, je le disais, les relations internationales de l'Alliance des Alliances françaises. Alors, quid de ces alliances françaises dans le monde, dans ce cadre francophone ? De quoi s'agit-il exactement ?
Là, c'est une longue émission, il faut réserver. J'ai amené avec moi un document qui traite de la langue française, qui est en fait, qui date de la fin du XVIIIe siècle, et qui montre qu'on s'interrogeait déjà sur la langue française. En 1783, monsieur le professeur, l'Académie de Berlin récompensait deux mémoires, donc de deux auteurs différents, l'un allemand, Schwab, et l'autre français, Rivarol. Ces deux mémoires étaient consacrées à l'examen de l'universalité de la langue française. C'était, je rappelle, en 1783. Rivarol soutenait un discours optimiste, discours optimiste français, quant au rayonnement durable de la langue française, mais Schwab prophétisait le déclin de notre langue, alors universelle à cette époque, si une nation voisine l'importait un jour en importance politique. Et bien c'est dans cette réflexion, et un siècle plus tard, que l'Alliance française est née, puisqu'il a fallu, en 1883, quand elle est née, réfléchir, et il a paru nécessaire à cette époque, à une élite intellectuelle, politique et sociale, de réaffirmer la mission, à l'époque on disait civilisatrice, vous parliez de colonie, civilisatrice française, désormais gravement menacée pour un tas de raisons.
Mais l'Alliance française dans le monde, ça représente combien de personnes, combien d'alliances en tout, et le rôle précis au quotidien ?
Donc aujourd'hui, ça n'a pas changé depuis la création de cette Alliance française le 21 juillet 1883. C'est fondé sur l'enseignement de la langue, sur une proposition de programmation culturelle et artistique, et sur un troisième axe qu'on développe ici avec le soutien des autorités françaises et des ambassades de France, c'est un centre de ressources sur la France contemporaine. Cette année, nous pouvons, alors ça change tous les jours, l'Alliance française est présente dans 135 pays, il y a 1085 alliances françaises, ça représente, vous savez que l'Alliance française, pour rester dans la modernité, si ce mot veut dire encore quelque chose, repose depuis plus de 120 ans sur l'initiative civile, donc la société civile internationale, et sur l'esprit associatif. Donc, parlons chiffres, ça représente environ 9000 administrateurs, c'est-à-dire 9000 personnalités qui composent bénévolement les conseils d'administration. Ça représente entre 12 000 et 15 000, parce qu'il y a évidemment des vacataires salariés, dont 9 000 professeurs. Ça représente pour 2004, j'ai regardé quelques chiffres avant de venir, des recettes globales, je dirais culturelles, artistiques, cotisations, enseignement de 130 millions d'euros, dont 80% de recettes de cours. Alors, on pourrait multiplier les chiffres comme cela, mais c'est une véritable réalité. Et je veux dire, c'est une réalité chiffrée de ce qu'on appelle aussi à quelquefois la francophonie, bien sûr.
Une belle entreprise, en tout cas. Professeur Jacques Barra, vous souhaitiez réagir au propos d'Alain Marquer ?
Oui, parce que je me félicite de ce qui vient d'être dit. Parlons un peu de mondialisation. La mondialisation, contrairement à ce que disent certains, il n'est pas question d'être contre. La mondialisation, c'est un processus inéluctable qui procède de la révolution des transports du 19e siècle. Mes étudiants africains n'arrivent pas en pirogue à Paris. Et de la révolution des nouvelles technologies de l'infocom au 20e siècle. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un processus, si vous voulez, de choc des cultures et d'uniformisation, je dirais, par la modernité, vous en parliez tout à l'heure, par, je dirais, le progrès technologique qui fait que le Nord est dans le Sud et le Sud dans le Nord. Et ça, on ne peut pas lutter contre. Mais ce qui est grave, c'est la globalisation. La globalisation, c'est le fait qu'un pays veuille imposer sa culture, sa manière de vivre à d'autres, y compris par la force. Et c'est là où nous, latins, nous avons, et surtout français, nous avons une richesse de vocabulaire qui nous permet de dire oui à la mondialisation, non à la globalisation. L'ennui, c'est qu'en anglais, ma langue maternelle, globalization, veut dire mondialisation. Et c'est à ce niveau-là que le français est une langue d'autant plus universelle, et est encore la langue diplomatique. Pourquoi ? Parce que nous avons un sens du vocabulaire, de l'adjectif, et en même temps de la formule qui permet, en plus, dans notre manière de raisonner, de lancer des messages universels et universalistes. Et la grandeur, l'ouvrage de Fumaroli, Académie française, c'est extraordinaire, quand l'Europe parlait français, la grandeur de la langue française procède de son extraordinaire précision et du fait qu'il n'y a pas de « global French ». Comme il n'y a pas d'ailleurs de global English, il y a un global American, on l'appelle le globish. Et c'est justement la catastrophe, et c'est ce globish contre lequel la francophonie essaie de lutter, et pas du tout contre la langue de Shakespeare, qui ne peut être que complémentaire du français, ou le français complémentaire de la langue de Shakespeare.
Alain Marquer.
Oui, non, mais la mondialisation, vous avez raison, soulève de nombreuses questions sur les moyens d'information et de communication, et surtout sur l'égalité d'accès aux nouvelles technologies. Donc ces bouleversements qui surviennent influencent pour l'instant d'une manière que certains jugent négative le rayonnement de la langue française. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai ? Bon, le débat est ouvert. En revanche, je reviens sur ce que vous venez de dire. Dans cette mondialisation, la francophonie peut jouer un rôle. Et doit jouer son rôle.
Parce qu'elle peut proposer une autre mondialisation. Voilà. Une mondialisation humaine, une mondialisation respectueuse, une mondialisation qui est l'écoute de l'autre au lieu d'être la destruction au nom de la modernité de cultures qui peuvent apparaître comme étant moins modernes ou bien moins efficaces. Et le mythe du productivisme et de la productivité, c'est la globalisation.
Tout à fait. Elle peut proposer, vous l'avez dit, une formalisation intelligente de la diversité culturelle qui se démarque alors là totalement ou clairement d'un modèle culturel dominant sans le nommer. Et si la francophonie en fait son principe d'action, elle rétablit le dialogue. Et c'est là qu'elle a son poids à jouer dans ses interactions internationales.
C'est une grande diplomate en fait la francophonie.
C'est
elle
cela,
a un
c'est...
rôle fédérateur.
Oui, mais je crois que l'idée, on va parler de diversité culturelle, quand on parle de mondialisation, on arrive au mot diversité, alors pas par opposition peut-être à disparité, mais peut-être par opposition à disparité, mais pas par opposition à homogénéité, je dirais, mais on peut revenir dessus.
Mais c'est vrai qu'il y a une diplomatie culturelle et que la francophonie est par essence une diplomatie culturelle, si on prend le terme dans son sens dynamique, parce que on propose l'écoute des autres, on propose le respect des cultures, on propose à l'intérieur, si vous voulez, d'une sorte de mini-ONU, une valorisation et une mise en exergue de cultures qui, sans cette salle de conférence qu'est la francophonie, serait ignorée. Et les médias, vous avez déjà abordé indirectement ou même presque directement le thème, les médias ont un rôle fondamental à jouer. Il y a des médias francophones et ces médias francophones mettent en exergue le fait que nous puissions mettre ensemble à Beyrouth des arabophones, des vietnamiens, un algérien qui vient écouter parce qu'il est le dernier à ne pas vouloir en faire partie mais il va bientôt y entrer, je le crois, des gens qui sont moldaves et des individus qui vivent au fin fond de l'Afrique noire. Est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir un diapason qui permette l'écoute en même temps de cette diversité d'où jaillit une unité dans dans les valeurs universelles.
Exactement. Alain Marquer. L'idée de la diversité culturelle correspond assez largement à la définition d'espace francophone, c'est clair. Mais cette idée de diversité culturelle, à l'échelle mondiale, est encore très jeune. Elle ne jouit pas encore de la tradition et de l'expérience dont bénéficient les autres valeurs démocratiques. C'est pour ça qu'il faut donc travailler et travailler, mais aussi bien, je dirais, vous l'avez déjà dit, au niveau théorique qu'au niveau pratique. Faire vivre cette diversité, c'est faire vivre au quotidien auprès de ceux qui sont dans cet espace francophone la réalité des valeurs et pas seulement la réalité de la langue française. Il y a d'autres valeurs aussi importantes qui sont véhiculées par la francophonie.
Nous allons y revenir, nous marquons une première pause dans cette émission Éclairage sur Canal Académie, la première radio académique francophone au monde. Nous recevons aujourd'hui le professeur Jacques Barra et Alain Marquer, directeur des relations internationales de l'Alliance française. A tout de suite. Bienvenue dans Éclairage, nous parlons de la place de la francophonie dans le monde aujourd'hui, à l'occasion, entre autres bien sûr, car la francophonie c'est quotidien, mais il y a toujours les commémorations, les journées dans l'année, en l'occurrence le 20 mars, c'est la journée de la francophonie dans le monde. Nous en parlons sur Canal Académie aujourd'hui avec nos deux invités, le professeur Jacques Barra, universitaire, diplomate, professeur, vous enseignez à la géopolitique de l'information et de la communication à Panthéon Assas, l'université à Paris. Et puis, je rappellerai également l'ouvrage « Géopolitique de la francophonie, un nouveau souffle », c'est à découvrir à la Documentation française. Et puis à vos côtés, Alain Marquer, donc je disais, directeur des relations internationales des Alliances françaises. Alors finalement, est-ce que la francophonie n'est pas trop, méconnue et trop, effectivement, mal connue? Est-ce qu'il n'y a pas un concept un peu trop large aujourd'hui de la francophonie? Je pense notamment aux jeunes générations, professeur Barra.
Écoutez, d'abord, le concept de francophonie est ignoré de nos contemporains francophones. Beaucoup pensent que ça ne sert à rien de faire une francophonie avec un grand F. Beaucoup pensent que ça n'organise que des sommets de chefs d'État coûteux et inutiles. Je suis obligé d'être très modéré dans mes jugements de valeur, mais je dirais que oui, il y a bureaucratisation de la francophonie. Oui, il y a sans doute, si vous voulez, lenteur, apparatchikisme, discours creux et discours vagues parfois. J'ai souvent entendu les francophones parlent et font des dîners-débats sur la faim dans le monde pendant que les anglo-saxons agissent en même temps. C'est un peu exagéré. Je voudrais tout de même défendre ceux qui essaient de faire vivre un organisme qui, dès qu'il s'est structuré politiquement, a tout de même eu comme secrétaire général l'ancien secrétaire général de l'ONU. Et il ne faut pas, je pense, éliminer comme ça d'un trait la francophonie avec un petit F en disant qu'elle est en péril, même si c'est vrai, et cracher sur la francophonie avec un grand F, même si, c'est vrai, il y a toute une série de raisons d'être un petit peu pessimiste, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure.
Alors finalement, Alain Marquer, la francophonie, N'est-ce pas un concept qui cache des incertitudes et des ambiguïtés difficiles à lever? Un petit peu l'auberge espagnole, pour reprendre certains termes que le professeur Barra va commenter ensuite. L'auberge espagnole où chacun trouve ou croit trouver ce qu'il y apporte.
C'est vrai, on peut le dire comme ça, mais les incertitudes, les préoccupations font partie de ce monde complexe d'aujourd'hui que nous vivons. Moi, je me souviens, il y a quelques années, je travaillais à New York, j'étais en contact avec les universitaires de Columbia, de New York University, et quand on parlait de francophonie, pour eux, c'était clair, pour ces universitaires américains, et je ne veux pas généraliser, je parle que de ces deux universités, c'est une francophonie. La francophonie n'existait que dans les anciens états coloniaux de la France, donc elle était dans les Caraïbes, elle était en Afrique. Ils n'arrivaient même pas à comprendre, je me souviens d'un débat assez houleux que j'avais eu avec mes amis à NYU, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'on puisse imaginer le Québec comme dans cette francophonie. Pour eux, c'était un monde américain et ça n'avait rien à voir avec la francophonie. Donc vous parliez d'image de la francophonie, je dirais, si nous en avions une image claire, bien cadré, bien formaté, on pourrait la projeter en essayant de donner du sens à ceux qui s'y intéressent. Mais je pense encore aujourd'hui, comme l'a dit le professeur, qu'elle est difficile à cerner, donc difficile à projeter.
Donc mal connue.
Donc mal connue ou connue de manière peut-être imprécise ou suivant évidemment les filtres culturels des uns et des autres. Mais surtout, ce qu'il faudrait en analyser, c'est l'image réfléchie. C'est que voit-on ailleurs de l'autre côté de l'espace francophone. Et là, ça pourrait peut-être nous inciter à réviser pas seulement nos discours, mais nos actions. Car cette francophonie sera vraiment vécue le jour où chaque personne ayant le français en partage saura se reconnaître par rapport à ses voisins, par rapport à ces pays où l'on parle aussi français. Il faut se nourrir, comme disait Ricoeur, je me nourris de mes frontières, de mes échanges, de mes différences. Si ces personnes se nourrissent, et ça c'est là que l'espace francophone a un sens, de ces différences, je pense que la francophonie sera mieux écoutée.
Mais ça c'est une volonté politique, non ? Quelque part. Il faut vraiment une impulsion politique. Et moi, sont-ils réellement convaincus de cette définition ?
Est-ce que vous me permettez de vous citer deux citations ? Jean-Pierre Vendette, vous savez, d'origine flamande. « L'étranger ne fera confiance à la langue française et donc ne l'apprendra que si nous-mêmes lui faisons confiance. » Puis Margie Sud. « L'élite française fait preuve parfois d'une grande légèreté et d'une incompréhensible cécité. Cette remarque vaut pour la francophonie comme pour la langue française. Certains considèrent notre langue et son rayonnement dans le monde comme un héritage désuet et encombrant. »
Diantre.
Et à l'inverse, je vais vous citer Georges Pompidou. « Si nous reculons sur notre langue, nous serons emportés purement et simplement. C'est à travers notre langue que nous existons dans le monde, autrement que comme un pays parmi d'autres. » Et c'est vrai que s'il n'y avait pas la langue française, nous ne serions qu'un conglomérat d'un peu plus de 60 millions de gens.
Tout à fait.
Et sans avoir quoi que ce soit à dire au monde. Or moi, je pense que la France a quelque chose à dire au monde, et les francophones ont quelque chose à dire au monde. Qui ne bâtissons pas un monde basé sur la mondialisation économique, laquelle ne reconnaît comme Dieu que l'argent ou la productivité. Et voilà le message essentiel.
Comment une langue comme le français est-elle parvenue à s'imposer ainsi dans un si large ensemble à travers le monde ? C'est quand même une aventure prodigieuse, non ? Alain Marquer,
c'est l'histoire de la France Barra. Déjà.
C'est l'histoire des instituteurs français, c'est voilà. L'histoire des alliances françaises.
Voilà. Des colonies aussi.
Oui, bien sûr. Et puis pas que cela. Je veux dire, la Russie, on y parlait français, vous le savez très bien. C'était pas une colonie. pas Voltaire la voyait pas comme cela. Mais il faut se rappeler qu'en 1870, un quart des Français ne parlait pas français. Donc là, ça c'est très important dans cette histoire de notre France.
La lutte contre le patois à l'école.
Exactement. Bon, c'est Jules Ferriot. Autre chose aussi, c'est que, bon, évidemment, le XVIIIe siècle a été porteur pour la France d'un grand espoir. Mais il y a également, moi je dirais, cet affectif pour notre pays, alors les droits de l'homme et peut-être aussi pour un peuple difficile à saisir par d'autres. Hein. Vous savez, on fait toujours cette remarque quand on est au Festival de Cannes, si on demande à un Américain « Comment avez-vous trouvé le film ?» Alors c'est clair, il vous dira « It's great, oh, c'était grand ». Si vous demandez à un Français, il vous dira pas « C'était intéressant », il vous dira « Ce n'était pas inintéressant ». Donc c'est difficile à saisir, c'est peut-être pour ça qu'on nous aime. Mais moi je pense que au-delà de cet intérêt pour la France, au-delà de cet intérêt pour la langue française, il n'y a quand même que deux langues internationales. Il n'y a que l'anglais et le français. Enfin, Jean-François Deniau appelle l'anglais l'anglicain, parce que c'est oui. une drôle de langue, une langue vernaculaire en France, où qu'on parle plus ou moins après avoir écouté un DVD, un CD, ou un peu vu un film à la télévision, parce qu'elle n'est souvent ni écrite, ni lue. Mais il y a d'autres acteurs pour faire vivre cette langue française. C'est pas seulement les autorités politiques, comme vous le disiez, je le pense du moins. Il faut une volonté politique exprimée, une volonté culturelle, mais il faut aussi que un peuple s'y intéresse. Il faut que le peuple français s'y intéresse, mais j'ajouterais, si on a l'occasion, et je termine juste là-dessus, il faudrait qu'on parle aussi du rôle des entreprises. Ça me tient à cœur.
On va y venir, c'est fondamental, bien sûr. On va y venir, professeur Barra.
Moi, je voudrais vous citer De Gaulle. Charles de Gaulle. La France met à disposition du monde une langue adaptée par excellence au caractère universel de la pensée. Notre langue et notre culture constituent pour un grand nombre d'hommes, hors de France, un foyer capital de valeurs, de progrès, de contacts. Et c'est tout à la fois notre avantage et notre devoir de la pratiquer et de la répandre. Et Albert Camus qui dit « Mais oui, ma patrie, c'est la langue française ». Et puis vous avez toutes les déclarations d'Habib Bourguiba, de Léopold Sédar Senghor, qui, même sur la colonisation, vont dans le même sens.
Il y a moins d'exemples aujourd'hui.
Non, mais dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue française. C'est Léopold Sédar Senghor qui le dit. Abdou Diouf a écrit des choses tout aussi jolies. Et Habib Bourguiba dit, lui, que nous avions mis en résidence surveillée, n'est-ce pas, dans le sud de la Tunisie. Je vous remercie de m'avoir donné le français. Je mourrai heureux. Extraordinaire.
Puisqu'on est là, je vous en livre une aussi.
À la Marquère.
C'est « À quoi chez tous les peuples reconnaît-on l'intelligence ?» À ce signe, par les Français. Je veux dire, qui l'a dit ça ? C'est Victor Hugo et où ? À l'Académie française.
Pas loin d'ici, en fait, juste en dessous de ce studio. La francophonie, est-ce qu'elle suscite encore autant d'intérêt chez les Français que chez les personnes qui le vivent au quotidien dans le monde ? Professeur Barra.
Non, je crois qu'il y a chez nous une démission. Il y a une démission parce que d'abord la qualité de notre langue est en danger parce que notre système éducatif est en péril et que nous avons confondu en France démocratie, démocratisation et massification. Mais cela est un autre problème. Je ne vais pas aujourd'hui parler des problèmes que rencontre l'école en France, même si je suis en première ligne en tant que professeur des universités. Mais je voudrais vous dire que lorsque j'étais en poste à l'étranger et que j'étais chef de mission culturelle, je m'apercevais que nous ne répondions pas, nous Français, nous fonctionnaires français, nous chefs de mission, nous conseillers culturels, aux attentes réelles des populations qui avaient une envie de France considérable. Alors, c'est là où je dois dire, et je le dis à mon voisin, moi j'étais heureux de voir que lorsque nous n'étions pas capables de faire quelque chose, soit parce que nous n'en avions pas les moyens financiers ou les moyens humains, ce qui revenait à peu près au même, pas toujours, ni la volonté politique, eh bien les alliances françaises, parce qu'elles étaient peut-être plus libres que nous, fonctionnaires, dans nos circuits compliqués du Quai d'Orsay, les alliances françaises jouaient un rôle fondamental et arrivaient à redonner, je dirais, à ces gens qui étaient épris de notre langue, épris de notre culture et qui venaient en pleurant me dire « Mais rappelez-vous, vous rappelez pas, vous ne lisez plus Alexandre Dumas, mais moi je me rappelle que dans 20 ans après, dans le Vicomte de Bragelonne, voilà ce qui est dit. Entendre ça dans un village de Transylvanie par quelqu'un qui est un petit instituteur misérablement payé, eh bien ça fait chaud au cœur. D'autant qu'il vous dit après « J'ai pu réemprunter ses ouvrages, je suis allé à l'Alliance française de Brashov ». Et c'est là où le travail que font vos alliances françaises, cher ami, est fondamental. Parce que ça répond à des besoins directs de terrain. Ce sont des besoins vrais. Vous ne faites pas de discours, vous êtes dans l'action. Et c'est là où vous êtes 10 fois plus important que le fait d'organiser des journées de la francophonie.
Bel hommage, en tout cas, voilà. À Marquère, que celui du professeur.
Mais moi, j'étais sur le train aussi, vous
tout
comprenez
à fait,
et j'ai vu qu'il travaillait.
On se souvient de ce que vous avez fait dans ce beau pays qu'est la Roumanie. Oui, mais moi, à mes yeux, nous sommes cependant alors pessimistes, optimistes, volonté populaire, volonté d'un gouvernement, on pourrait en parler. C'est vrai qu'il y a un manque de volonté des élites peut-être pour pouvoir faire vivre cette force, cette langue française. Mais à mes yeux, nous sommes cependant, je le crois vraiment, en train de vivre une étape intermédiaire où nous sommes dans la francophonie et en France encore avec le choix de notre avenir. Je le crois, mais l'avenir de la langue française et de son rayonnement dépendent de nous, à condition évidemment qu'on emprunte les bonnes voies, à condition qu'on sache se faire entendre. Moi, je peux vous dire, pour reprendre après ces mots flatteurs pour l'Alliance française, puisque sont tous les amis de la France qui sont autour de ces alliances françaises qu'il faut remercier, c'est que je suis toujours frappé. En voyageant dans le monde, là je repars par exemple la semaine prochaine en Corée, dans le réseau des alliances françaises, combien l'attente est forte de nos personnalités, de ces amis de la France, je ne les appelle même pas étrangers parce qu'ils ont un autre statut aujourd'hui, qui attendent de nous beaucoup, ils savent que quelquefois on fait peu, mais ils attendent évidemment de manière évidente et de manière extrêmement affective quelquefois, et combien les demandes sont généralement simples et identifiées. Et moi, c'est l'Alliance française. Alors, je vais parler un peu pour ma chapelle. C'est le partage du français, et on le voit à l'Alliance française, je parle de celle-là, crée des liens que nos conseils d'administration ont su faire fructifier sur tous les continents en plus de 100 ans. Et cet enseignement du français s'est toujours accompagné pour nous d'une exigence du respect de la diversité culturelle, du respect de l'autre, évidemment du dialogue des cultures. Là, on a tous les mots. Vous savez que dans les Alliances françaises, on enseigne la langue du pays ? Mais pas évidemment aux habitants du pays, mais à des Français. C'est un signe.
C'est le partage des cultures, en tout cas.
C'est le partage, c'est surtout le respect et un regard extrêmement fort pour la culture de l'autre.
Alors ça, pardonnez-moi Alain Marqueur, mais en France aujourd'hui, on n'a pas cette perception-là de la... Je pense notamment aux jeunes générations. Quand on parle de francophonie, on dit « Oh, ton truc, c'est un vieux machin, c'est désuet ». Est-ce que ce n'est pas une mauvaise image, professeur Barra, entretenue peut-être aujourd'hui en France par certaines élites ?
Mauvaise image. D'abord parce que les Français adorent mépriser ce qu'ils sont. C'est très à la mode. La sinistrose culturelle est à la mode en France. Ça fait partie du politiquement correct et il n'y a rien de plus abject. Ensuite, je dirais que pour beaucoup de jeunes, le français est inutile parce que ça ne permet pas de gagner de l'argent.
Et puis c'est plus la langue de l'avenir.
Non, moi je me rappellerai toujours que des gens du showbiz, pour parler franglais, exprès, décorer la Légion d'honneur, je ne cite personne, disent « moi j'ai envie d'être américain ». C'est très révélateur, vous voulez, de ce désert culturel qu'on rencontre chez certains, mais ce sont ces gens-là qui sont mis en exergue par les médias. Qu'est-ce que les médias vous montrent ? Quelles sont les émissions qui font de l'audience ? C'est ce qu'on appelle les émissions people, où on essaie de se coca-coliser,
tendance.
De s'américaniser.
Oui.
C'est
une tendance.
Et vous avez donc un vocabulaire, même en français, qui apparaît pour dénoter, si vous voulez, cette espèce de volonté de se fabriquer une sous-culture, comme si c'était jouer avec le feu. Ça me fait penser à James Dean et aux gens qui sautent au dernier moment d'une automobile avant de la laisser s'écraser du haut d'une falaise, si vous
Donc
voulez.
On préfère la France à l'étranger qu'en France même, à la Marquette.
Je voudrais juste revenir sur un point. Si Louise Baudouin, qu'on a rencontré au mois de janvier, vous entendait en disant que le français, c'est fichu, le français, soyons tous américains,
je me fais l'avocat du diable.
Vous seriez brûlé sur la place
absolument. Et elle a raison, Louise.
Elle a un point, elle apporte toujours un point important. Bon, Québec, parlant évidemment de ce beau pays, c'est que si l'entreprise ne donne pas de travail à ceux qui ne parlent que français, on va pas apprendre le français, on va parler anglais, on va apprendre la langue qui permet de nourrir sa famille, la langue qui permet d'apprendre un métier, la langue qui permet d'en trouver un. Donc il faut être extrêmement, je dirais, pragmatique quand on parle de francophonie. Moi, je dirais qu'il y a 5 points. La francophonie est importante si elle est comprise comme un facteur de paix et de stabilité dans certains pays. Elle est importante si on comprend qu'il n'y a pas de solution universelle, comme quelquefois en France, on essaie d'en trouver une, et qu'elle ne répond qu'à des conditions locales propres à chaque pays ou à chaque région. Elle est importante si on comprend que une francophonie peut révéler des tensions, on le voit dans des pays proches, comme en Belgique, mais que par l'échange, par le dialogue, on peut retrouver, je dirais, une harmonie ou un équilibre. Elle est importante, comme on reviendra sur ce point-là, si on considère que c'est une démarche volontariste des autorités publiques qui réagissent évidemment à une volonté populaire. Et pour finir, je dirais que ce dialogue et cet échange ne s'obtiennent pas seulement par des programmes politiques, par des programmes académiques, mais par des actions concrètes sur la vie quotidienne, la scolarité, prise en charge aussi du marché du travail.
Nous allons marquer une très courte pause, pardon professeur Barra, nous allons y revenir dans un instant. Écoutez Canal Academy, nous parlons de la francophonie dans le monde aujourd'hui, dans l'émission Éclairage, avec Alain Marquer, directeur des relations internationales des alliances de l'Alliance française, et le professeur Jacques Barra, qui publie, je le rappelle, « La géopolitique de la francophonie, un nouveau souffle » à la documentation française. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
On retrouve Édouard Rosset.
La francophonie dans le monde, nous en parlons sur Canal Académie avec nos deux invités, le professeur Jacques Barra, universitaire, diplomate. Vous enseignez, monsieur Barra, la géopolitique de l'information et de la communication à l'université Panthéon Assas. Et je rappelle cet ouvrage coécrit avec Claudia Moisé, Géopolitique de la francophonie, un nouveau souffle, à la documentation française. Et puis à vos côtés, le directeur des relations internationales de l'Alliance française, Alain Marquer. Alors, est-ce que l'économie, messieurs, a également un sens au sein de la francophonie ? Est-ce que, peut-on dire que la francophonie a un sens au niveau économique ? Professeur Barra ?
Oui, je dirais même que c'est fondamental. Et je voudrais réagir sur ce qui vient d'être dit. Si Louise Baudouin a les réactions parfois un peu brutales que nous lui connaissons, c'est qu'elle appartient aux 6,5 millions de Québécois qui, pendant longtemps, après leur révolution tranquille, lorsqu'ils sont devenus citadins, alors qu'ils étaient des agriculteurs issus du XVIIe siècle français, on leur disait, lorsqu'ils parlaient français à l'usine, « speak white ». Et donc, la grande victoire du Québec après le passage du général de Gaulle, ça a été d'imposer le français comme langue de travail. Et le français, aujourd'hui, montre que ça peut être une langue de travail. Quand je vois que lorsqu'Ariane décolle et conduit et qu'on dit « feu », lorsqu'on parle français là où on construit des Airbus qui valent bien les Boeing, lorsqu'on parle français dans les centrales nucléaires qui n'explosent pas parce que nous leur fabriquons des toits, je suis fier et je me dis que le français peut être la langue de travail, une langue scientifique. Malheureusement, jusqu'à maintenant, pour des raisons faciles à comprendre, l'anglais, qui est beaucoup plus facile à apprendre vite, surtout quand on fait des mathématiques et qu'on n'a que des mots de liaison, je dirais, littéraires à mettre au milieu d'équations. Le basic American est plus facile. Et c'est ainsi que, en matière scientifique, et nous sommes ici à l'Institut de France, en matière scientifique, le français a pratiquement disparu, parce que même en France, pour que un article en médecine soit lu, il faut non seulement mettre son résumé en anglais, mais il faut même le rédiger en anglais pour que sa diffusion soit la plus large possible. Premier problème. Deuxième problème, l'économie. Il n'y aura pas maintien de la francophonie avec un petit F et avec un grand F si la francophonie ne s'occupe pas d'économie. Or, force est de constater que France, Québec, Belgique, Suisse, Luxembourg, mis à part, les autres pays francophones sont pour l'essentiel des pays des tiers-monde, en particulier l'Afrique noire, le Vietnam, Madagascar, ou alors des pays qui sortent de 50 ans, d'économie socialiste comme la Roumanie, la Moldavie et la Bulgarie, et qui pour l'instant ont d'autres préoccupations peut-être que le rayonnement de la langue française, c'est tout simplement de redevenir ce qu'ils étaient, ne serait-ce qu'en 1939, au niveau de leur rôle objectif en Europe. Donc, il faut investir le champ économique. C'est la priorité des priorités. Et je ne cesse de le répéter à Steve Gentili, qui est le président du Forum francophone des affaires. C'est grâce aux entreprises, grâce à l'entreprise, que nous ferons une francophonie forte. Mais pour cela, faudrait-il que les Français aient une culture d'entreprise.
Et puis les termes, il n'y a qu'à voir les termes techniques employées notamment par le secteur de la finance. On parle beaucoup de business corporate, de cross-selling, de cross-border, etc. Et les mots sont glissés au milieu de phrases totalement françaises.
La Banque de France
édite
ses rapports en anglais avant de les éditer en français. Nous avions fait remarquer à M. Trouvé que cela n'était pas convenable.
Oui. Alain Marquer, sur cette problématique de l'entreprise aujourd'hui, très très importante, à travers l'ensemble du monde.
Tout à fait, je partage totalement ce qui vient d'être dit par le professeur. Moi j'aimerais, si vous voulez, vous livrer deux points qui me semblent aussi devoir être relevés. pour vous reprendre ce que vous avez dit, tout d'abord, moi j'ai l'impression qu'il y a une absence totale de la part, importante, de la part des grands acteurs économiques français d'une véritable réflexion sur la langue française. C'est le premier point. Alors, doivent-ils le faire? Moi, on n'est pas là pour faire un procès, ni pour les engager à le faire, mais il y a une absence reconnue. Et leur implication me paraît essentielle, comme vous venez de le dire. Donc, si nous sommes toutes et tous persuadés que la mondialisation ne procède pas exclusivement d'une dynamique économique et financière, les entreprises qui travaillent dans les échanges ont un rôle particulier. Et j'ai lu dernièrement un petit livre là-dessus. Et on place les entreprises en première ligne linguistique, les entreprises françaises. Et si ces entreprises ne savent pas comment amener ce débat sur la langue française, nous aurons évidemment un véritable souci pour montrer que cette langue française est utile et efficace. Donc la question, en fait, c'est comment amener ces décideurs économiques à réfléchir sur l'intérêt bien compris qu'il y a, pour eux comme pour la francophonie, comme pour notre pays, dans un environnement extrêmement complexe, à s'appuyer sur notre langue, et je dirais à lui faire confiance au-delà d'un simple usage vernaculaire de l'anglais. Moi, je connais dans certains endroits du monde des entreprises françaises, et ce n'est pas du tout une condamnation, qui préfèrent ne pas être perçues comme françaises, pas pour être ensuite approchées pour du sponsoring, comme l'on dit en français, mais pour ne pas paraître, évidemment, dans un environnement anglo-saxon comme plus faible. C'est une sorte de péché qu'elle se donne. Je suis française, donc je ne peux pas être à la hauteur de ces groupes anglo-saxons.
Le mal-être, voilà. En fait, et de peur de perdre des parts de marché, peut-être même sur le plan
certainement,
international.
Certainement.
Ou un complexe d'infériorité.
Et un complexe d'infériorité, voilà. De peur, en effet, d'être perçu comme des gens qui n'ont pas d'expertise ou de compétences professionnelles, ce qui est complètement ridicule.
Mais même à Bruxelles, nous avons professeur nos fonctionnaires Barra. Français qui parle franglais ou un anglais que moi je ne comprends pas, en disant vous n'auriez pas un interprète pour me dire en bon anglais cette espèce de charabia, et tout ça pour montrer qu'ils ont essayé d'apprendre l'anglais, ce qui est d'ailleurs très mal enseigné ou mal enseigné en France, si j'en crois la manière dont les écoliers après 5 ou 6 ans essaient de parler anglais. Là, je voudrais citer mon ami le recteur Guillou, vous savez qui a été pendant très longtemps le grand patron de l'AUF, l'Agence Universitaire de la Francophonie. La communauté francophone doit investir le champ de l'économie. Sans économie solide, des pays membres, les objectifs qu'elle s'est fixés ne pourront être atteints. Cela va aussi bien pour le respect des droits de l'homme que pour la diversité culturelle. Et moi, je crois que droits de l'homme, entreprise, diversité culturelle, entreprise, rayonnement des entreprises françaises vont de pair. Donc, quand je vois que l'Airbus taille des croupières ou des parts de marché à l'étranger, je me réjouis parce que plus Renault gagnera de parts de marché, plus Renault rachètera des firmes dans le style de Nissan, et plus on aura sans doute besoin au Japon ou ailleurs de parler français avec des ingénieurs qui pourront s'exprimer encore mieux dans leur langue maternelle qu'en passant par cette simplification qui est la traduction et du japonais et du français en anglais. Moi, quand je vais en Chine, je parle français et j'exige qu'on traduise mon français directement en chinois. Je peux parfaitement parler anglais, mais si vous voulez, à ce moment-là, mon enseignement de francophone, je suis anglophone de naissance, mais mon enseignement de francophone perd un petit peu un degré de valeur par rapport à la conception intellectuelle globale que représente le fait de parler une langue. Parler une langue, c'est pas seulement utiliser un moyen. Parler une langue, c'est épouser, c'est adopter une manière de penser et de vivre l'autre et le monde. Et c'est cela que nous montre tous les jours la langue française.
Il faut convaincre les jeunes cadres dynamiques, en tout cas.
Mais tous, je dirais, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je suis évidemment totalement d'accord, je crois qu'il est devenu urgent de favoriser une prise de conscience beaucoup plus générale et proche du terrain de toutes celles et ceux qui parlent français. Qu'ils soient évidemment français ou francophones. Et moi, je crois que c'est à chaque personne, dans son attitude, dans son comportement, de défendre si elle attaquait et d'illustrer sa langue d'élection. Comme vous l'avez fait en Chine, vous parlez en français, on traduit.
Mais oui, parce que nous avons d'excellents traducteurs.
Quand on est en Amérique latine, on parle espagnol. Les Japonais disent que la langue qu'il faut parler, c'est la langue du client. Bon, c'est un autre problème.
Business is business, pardon.
Oui, il ne s'agit pas d'exclure, voilà. Il ne s'agit pas de contester, il s'agit avant tout de faire preuve de volontarisme et de fermeté, mais surtout de respect et de plaisir.
Mais encore faut-il être soutenu quand même par sa hiérarchie. Et ça, c'est une autre affaire.
Oui. Regardez
le problème de l'étiquetage. On a failli avoir des supermarchés Auchan en Bourgogne avec des étiquetages en anglais. Je suis pas du tout contre l'anglais pour les raisons que vous savez, mais ce n'est pas normal. Comment se fait-il qu'on soit obligé, pour faire 6 ou 8 millions de téléspectateurs, d'avoir des émissions qui s'appellent Star Academy? On ne peut pas dire Académie des futurs jeunes.
Alors, je précise que Canal Academy, la radio que vous écoutez actuellement, s'écrit IE. À la fin, évidemment, on n'a pas le concept anglo-saxon avec le Y.
Donc, mais vous savez, là, c'est très important, l'ennemi n'est pas l'anglais. La langue de Shakespeare n'a jamais été l'ennemi du bon français. D'ailleurs, ceux qui parlent très bien anglais parlent également souvent très bien le français, car les deux langues sont complémentaires. D'ailleurs, sans, on en revient au système éducatif, sans grec, sans latin, sans humanité, on ne peut pas bien posséder sa propre langue. Et je tiens à vous dire que le fait qu'un petit garçon apprenne à passer d'un système de pensée dans un autre en faisant du latin le prédispose à apprendre l'anglais, le français, l'allemand, le persan, l'arabe. Et c'est donc une préparation, je dirais, à la mondialisation, à l'œcuménisme culturel, que de passer d'une langue à une autre. Et pour bien apprendre le français, il faut avoir de bons maîtres. Et alors là, une fois de plus, nous revenons vers le problème fondamental qui est celui de l'école. Problème qui n'existait pas à l'époque d'Élysée Reclus. Car à l'époque d'Élysée et d'Onésime Reclus, eh bien, les instituteurs, les hussards noirs de la République ou les curés, peu importe, fabriquaient des têtes bien faites et bien pleines.
Nous allons bientôt refermer et conclure cette émission, messieurs, pour parler de la francophonie. Aujourd'hui, c'est plutôt un message d'optimisme. Allez, on va dire aussi peut-être un petit peu pessimiste, non, professeur Barra et Alain Marquer ensuite.
Écoutez, pour réagir en spécialiste, entre guillemets, je n'aime pas tellement ce terme, je dirais que la francophonie avec un petit F progresse très légèrement, mais elle est très menacée. Quant à la francophonie, avec un F majuscule, à force de s'élargir, sans s'approfondir, à force, pour faire plaisir à des pays d'accepter des pays aussi peu francophones avec un petit F que, comme Malte ou l'Autriche, eh bien, c'est un peu comme l'Union européenne, à force de nous élargir sans approfondissement, on fait peser à ces organisations, je dirais, des dangers de sclérose, d'émiettement, d'éparpillement que d'aucuns souhaitent. Alors continuons, d'autant que le français est surtout en danger, où ? Dans les organisations internationales, à l'ONU et à Bruxelles.
Alain Marquer, un chiffre dont peut témoigner l'Alliance française, c'est une hausse de 6% de la demande, je crois, 6% de français, de la langue française, donc d'étudiants en hausse de 6% de la langue française à travers le monde.
Dans le réseau des alliances françaises. Oui. Mais alors, il faut regarder de près les chiffres. Nous avons une demande qui est même près de deux chiffres dans le réseau, mais elle se manifeste à travers la fréquentation aujourd'hui dans les alliances françaises de nouvelles classes d'âge, enfants et adolescents. De nombreux enfants et adolescents aujourd'hui viennent prendre des cours à l'Alliance française. Pour ça, l'Alliance française est souvent ouverte 6 jours ou 7 jours par semaine. C'est à la fois prometteur, parce qu'une nouvelle génération vient toucher le français, mais on en parlait juste avant l'émission avec le professeur. Il est évident que si nous accueillons des enfants et des adolescents, c'est qu'il y a un déclin d'enseignement du français dans le système éducatif national.
Donc
il y a
une sorte d'exercice
international. Il est sûr aussi, mais moi je peux pas l'analyser, c'est qu'il y a un effet générationnel. Les grands-parents qui ont lâché leurs enfants, je dirais, auprès de l'anglicain, comme disait Jean-François Degnaud, ce que j'ai déjà dit, se chargent des petits-enfants. Ils savent très bien qu'il y a une richesse dans le plurilinguisme. Donc il y a à la fois...
Et si vous me permettez de vous interrompre 30 secondes, c'est surtout vrai dans des pays comme Madagascar et le Vietnam. Le Vietnam, dans les années 70, est un pays totalement anglophone. Il redevient francophone grâce aux grands-parents.
Exactement. Moi, on parlait de pessimisme et d'optimisme. Bon, le philosophe Alain disait, le pessimisme
évidemment est
d'humeur et l'optimisme est de volonté. Or, aujourd'hui, c'est clair, il faut aller de l'avant. Il faut marquer beaucoup de fermeté. Je pense que nous sommes clairement entrés dans une phase décisive pour la langue française.
Alors,
est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va pas être bien? Mais à un niveau, la francophonie propose au monde, comme à nous-mêmes, un monde basé sur la confiance, l'ouverture, le respect. Est-ce que cette langue, la langue française, la nôtre, peut porter toutes ces valeurs? Moi, je dis oui. Il y a aujourd'hui, évidemment, des handicaps. Il y a aujourd'hui une absence de volonté. Il y a aujourd'hui, certainement, une réflexion qui n'a pas été menée jusqu'au bout, qui pourrait donner cette force à ce discours. Mais oui, la francophonie peut encore réussir.
Professeur Jacques Barra,
rapidement. Moi, je dirais, on peut remonter la pente, et je vais vous citer Lyautey, cela prendra du temps, raison de plus pour commencer tout de suite.
Alors, ce ne sera pas forcément le mot de la fin, parce que j'aimerais bien avoir quelques précisions sur votre opération de communication, l'Alliance française Alain Marquer. Vous avez choisi le 20 mars 2005, je le disais, Journée internationale de la francophonie, comme point de départ d'une vaste campagne médiatique. La campagne est réalisée par l'agence Léo Burnett. Alors, est-ce que l'on peut en avoir quelques détails?
Oui.
Il s'agit de lutter contre la monoculture.
Oui, en fait, cette agence est venue généreusement nous voir au 101 boulevard Raspail pour nous proposer de travailler avec nous. Donc, on était plus que flattés qu'une agence du groupe Publicis s'intéresse à la langue française. Elle gère l'Alliance française et Juste Porteur. Donc, nous avons pendant un an travaillé ensemble. Ils ont tenté de nous comprendre. Ils ont tenté de nous radiographier, de nous ausculter. Ils nous ont proposé une campagne. Alors, il y avait plusieurs scénarii. Et celui que nous avions choisi pour le petit film n'a pas été retenu par l'agence en disant « Vous parlez évidemment d'un film qui vous rend confortable, mais nous on va vous proposer un film qui va un tout petit peu vous chahuter et qui va certainement toucher une population qui ne vous connaît pas et qui ne connaît pas l'Alliance française ». Ce film donc est composé de 5-6 séquences d'archives et il s'appuie sur des mots anglais. Grande surprise, il s'appuie sur des mots anglais. Alors, on peut en donner.
C'est provocateur.
French, c'est une provocation et une nouvelle signature ou un nouveau slogan. Donc, on a French Kiss, French Fries, French Doctor.
C'est un comble.
Et ce clin d'œil, c'est que les Anglais ont besoin de passer par les Français à la fois, non seulement pour décrire un mode de vie, mais aussi un mode de pensée. Alors, ce deuxième degré va-t-il être compris partout? Nous l'avons présenté lors de notre colloque international devant plus de 300 personnes qui représentaient 84 pays. Je dois vous dire que j'étais un peu inquiet de la réaction de mes amis d'Amérique latine, parce que j'y ai passé quelques temps en disant que je pensais que j'allais être écorché vif. Et l'unique réaction négative, puisque vraiment les gens ont apprécié, parce que ça bouscule un petit peu les habitudes, c'était nos amis américains, je rappelle que c'était fin janvier, qui nous ont dit « French fries, jamais monsieur, maintenant c'est freedom fries », comme l'a dit le président Bush. Bon, à part cette réaction et autour de French Kiss, ils y voyaient une débauche insupportable pour le monde qu'ils représentaient, mais ça a été extrêmement bien reçu, et nous avons, pour la première fois après 120 ans, une campagne à vocation mondiale, les alliances françaises ont toutes reçu le film, et nous avons pensé que c'était le moment autour d'une date qui est un vrai rendez-vous pour l'Alliance française, c'est la journée, la semaine de la francophonie, voulu lancer ce film parce que nous voulons ouvrir un dialogue, puisque notre slogan, je dirais notre signature, pour parler comme l'agence de communication, c'est l'alternative culturelle.
Cédons pas au monolinguisme, imprégnons-nous des autres cultures à travers la francophonie, c'est le message.
C'est cela, c'est l'alternative culturelle, on ne refuse personne, mais ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs au débat.
Merci infiniment Alain Marquer, directeur des relations internationales des Alliances françaises. Merci professeur Jacques Barra. Je rappelle donc cet ouvrage à se procurer de toute urgence à la documentation française, Géopolitique de la francophonie, un nouveau souffle. Excellente journée à l'écoute de Canal Académie, faut-il le rappeler, la première radio académique francophone au monde. Merci messieurs, à très bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.